Bienvenue dans notre lieu magique à nous. C'est un lieu magique pour notre association où on propose à chacun de s'aventurer dans une forêt obscure qui est celle de l'imagination, à chacun à travers les images et les métaphores de progresser vers soi-même. Aujourd'hui, donc, Laurie Guillot, chercheur, et Jean-Luc Marcastel, qui est un auteur très reconnu de fantasy, vont imaginer ensemble l'imaginal de l'apocalypse. Après une première rencontre autour de la dinomania et de dinotopia il y a 2 jours, votre fascination commune pour les mondes perdus vous réunit ce matin. Pour Loric, c'est même sa thèse de doctorat dans la littérature, les mondes perdus dans la littérature anglo-saxonne. Il a aussi une passion qu'on évoquait à l'instant pour les imaginaires du nouveau monde et notamment ces mouvements très 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 en vogue actuellement aux États-Unis qui sont bien sûr les survivalistes. Pour Jean-Luc Marcastel, j'en dis un mot, j'espère qu'il va nous rejoindre. Ses titres mettent tout de suite dans l'ambiance: Le dernier hiver, Le monde souterrain de Telucidar, Le monde post-nucléaire de Clara, Les enfants d'Erebus. Tout cela sonne comme, c'est beau comme du René Barjavel dans Ravage. Donc, on a hâte de frémir avec vous. Laurie Guillot, vous avez longtemps enseigné à Angers, et une première question: est-ce que la présence, la proximité de la tapisserie de l'Apocalypse du roi René vous influence?
Le hasard n'existe pas, évidemment. Non, mais c'est vrai que... Non, je n'ai pas choisi Angers pour ça, mais le hasard, disons, ce jour-là, a bien fait les choses. Et je suis retourné très souvent. D'ailleurs, il y a un double lieu. Il n'y a pas simplement les tapisseries de l'Apocalypse, que je vous conseille d'ailleurs de voir au château. Il y a également les tapisseries de Jean Lurçat, qui sont absolument superbes, qui sont de l'autre côté de la Loire et qui sont également, disons, apocalyptiques, mais plus récentes. Je crois que c'était composé dans les années 1950. Alors c'est assez intéressant justement de faire le lien entre l'apocalypse, disons religieuse, et l'apocalypse revue par un artiste. Et c'est très intéressant, évidemment, cet aller-retour. On retrouve des thèmes communs, des symboles communs. Donc voilà. Bon, ceci dit, bon, Angers, je n'enseigne plus à Angers, je suis maintenant émérite, c'est-à-dire retraité. Par contre, en tant qu'américaniste, ça fait longtemps que je fréquente l'imaginaire américain, comme peut-être vous le savez. Et bon, on va voir comment se déroule le débat ou l'absence de débat ce matin, mais il est clair que pour moi, j'ai beaucoup de difficultés à parler de l'apocalypse sans parler du contexte états-unien ou américain qui est spécifiquement apocalyptique. Bon, j'essaierai de vous dire pourquoi. Voilà. Tu veux que je... Ah bon, écoutez. Alors, on va essayer de balayer un peu parce que le terme apocalypse aujourd'hui est totalement dévoyé. Totalement. Bon, comme vous le savez, l'Apocalypse est un texte sans doute unique, un texte qui n'a pas d'équivalent. C'est un texte qui a été composé au 1er siècle par Jean de Patmos, un texte qui, depuis près de 2000 ans, ne cesse d'être commenté, décrypté, un peu trop quelquefois à certaines époques, comme si, d'une certaine façon, la lecture, la relecture, le déchiffrage de l'Apocalypse permettait aux hommes de comprendre ce qui les attendait. Alors, à partir du terme Apocalypse que tout le monde connaît, mais vous connaissez évidemment le grec apocalypsis, qui signifie dévoilement. L'Apocalypse, c'est un dévoilement, et non pas comme évidemment, on le voit sur les chaînes de télé et ailleurs, une catastrophe. Alors évidemment, il y a des côtés tout à fait, comment dire, violents, impressionnants, de l'Apocalypse, bien sûr, mais le véritable sens, c'est un sens qui nous rapproche, disons, du dévoilement, ou peut-être de la révélation au sens religieux du terme. Donc, c'est un texte qui révèle, et non pas un texte qui est destiné à déclencher une épouvante, déclencher la terreur. Même si, une fois encore, il y a d'autres termes qui tournent autour de l'Apocalypse, que vous connaissez sans doute. Alors, je ne veux pas utiliser trop de jargon, On peut pas parler quelquefois les fanatiser. Hein. On va le voir que malheureusement il y a aujourd'hui une sorte de retour fanatique aux grandes heures de l'Apocalypse au sens le pire du terme. Donc j'aimerais essayer de montrer que le texte de Saint Jean est tout de même plus important que le message catastrophiste qu'il prétend montrer aujourd'hui. Le texte de Saint Jean, c'est un genre littéraire déroutant, qui sans doute, comme je vous l'ai dit, est unique, qui n'a pas de comparaison dans la littérature contemporaine. Car c'est un texte littéraire. Le texte de Saint Jean est un texte littéraire, c'est un texte religieux, c'est un texte, en fin de compte, avec des résonances multiples. Alors, un troisième terme, qui est toujours lié à l'Apocalypse, c'est le terme « millénium ». Le millénium, qui a donné le millénarisme, le post-millénarisme, etc. Le millénium désigne le règne de 1000 ans de Jésus-Christ sur terre, qui est donc décrit dans le fameux chapitre 20 de l'Apocalypse. Alors, il se décline en plusieurs conceptions. Vous avez, là encore, plusieurs lectures possibles du millénium. Les millénaristes ont une conception littérale du millénium qui se réfère au règne donc de 1000 ans du Messie sur Terre. Alors il faut bien comprendre que les 1000 ans, c'est un chiffre symbolique. Les 1000 ans, c'est l'éternité. Donc ne croyez pas que cette période est absolument précise sur le plan temporel. Le retour exploite les peurs actuelle et essaye de fanatiser les gens. Donc, il y a 1000 ans de bonheur, ces 1000 ans sont symboliques, c'est une éternité de bonheur qui va accompagner le retour du Christ et surtout, la victoire des forces du Christ sur les forces de Satan, la fameuse bataille d'Armageddon. C'est très bien, je ne sais pas qui suit. Oui, alors le terme Armageddon apparaît une seule fois dans l'Apocalypse, c'est la bataille finale, hein, digne de la fantaisie actuelle. Hein. D'ailleurs, oui.
J'ai peut-être l'Armageddon quelque part. Ah, il y a aussi la nouvelle Jérusalem qui monte au ciel. Alors, on va reprendre ce passage. Est-ce que j'ai l'Armageddon ? Voilà.
Juste avant.
Voilà. Bon. L'Armageddon, c'est bien sûr des peintures, c'est bien sûr une figuration guerrière de la confrontation entre le bien et le mal. Il n'est pas difficile, évidemment, de trouver des prolongements actuels au niveau imaginal, au niveau de l'imagination, et notamment à travers le cinéma, le Seigneur des Anneaux. Très souvent, les batailles gigantesques du Seigneur des Anneaux fait penser, évidemment, à l'Apocalypse. Bon, voilà. Alors, peut-être, et je vais te laisser la parole, tout de même un extrait absolument fondamental de l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est tout de même un texte. Voilà. C'est un texte, disons, c'est un extrait de texte qui fait partie des passages les plus connus et qui est le plus commenté. « Alors je vis un ange qui descendait du ciel. Il avait à la main la clé de l'abîme et une lourde chaîne. Il s'empara du dragon, l'antique serpent, qui est le diable et Satan, et l'enchaîna pour 1000 ans. » Vous voyez, on trouve déjà le thème d'enchaîner Satan pour une période de 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme qu'il ferma et scella sur lui pour qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à l'accomplissement des 1000 ans. Il faut après cela qu'il soit relâché pour un peu de temps. Et je vis des trônes. À ceux qui vinrent y siéger, il fut donné d'exercer le jugement. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Bon, donc d'une certaine façon, quand le diable est relâché, quand il parvient à se libérer de ses chaînes, là commence évidemment une période qui pourrait correspondre à nous ce qu'on appelle la catastrophe, la fin des temps, la fin du monde, etc. Mais il faut le dire tout de suite, heureusement, Satan va être repris et à nouveau donc entravé par ses chaînes. Et là enfin, vous verrez que l'Apocalypse se termine bien. Donc, un texte est également un style. Ça, c'est typique de Saint Jean. Alors je vis. Il faut bien comprendre que l'Apocalypse a été écrit par un visionnaire, c'est-à-dire un poète. Donc il y a ce côté, je dirais, littéraire qu'on laisse de côté en général et qui est tout de même très important. Le deuxième côté, bon, vous l'avez vu tout de suite, et certains ici ou certaines connaissent bien les symboles. Donc vous voyez que le dragon, le serpent, bon, évidemment, tout ça nous inspire des conceptions tout à fait intéressantes. Bon, ce n'est pas un hasard, je le dis en passant, si le texte de l'Apocalypse se retrouve notamment dans certains rituels maçonniques et autres. Donc, il y a des résonances, je dirais, qui sont universelles de l'Apocalypse. Voilà.
Donc, merci, Loïc. C'est vrai que si on regarde la peinture du Moyen-Âge, l'Apocalypse, c'est d'abord le prélude à une pacifique montée de la cité de Dieu. C'est qu'avec Bruegel ou Jérôme Bosch qu'on voit arriver les lutins et les choses un peu moins exaltantes. Jean-Luc, je me suis permis de vous présenter. Avant
merci,
d'arriver.
Encore désolé du retard.
Une soirée apocalyptique, j'imagine.
Non, pas du tout. Non, j'étais là, j'étais en place en train de dédicacer. Là, sur la feuille que j'avais reçue, il est marqué 11h, en fait.
Ah, pardon.
Donc, non, voilà. En fait, j'ai repris ça sur le programme, effectivement, il y avait bien marqué 10h, mais sur la feuille que j'ai eue, écrite manuscrit, enfin, dactylographiée. Donc j'avais bien noté, moi j'avais noté 11h sur mon téléphone. Pour...
voilà. On est ravis d'avoir l'avis d'un écrivain émérite de fantasy sur l'Apocalypse.
Merci.
À vous.
À moi. Donc ah, alors, oui. Comme ça je pars sur l'Apocalypse directement.
Oui, non, sans. On a eu une préméditation d'abord.
D'accord. Ah ben, c'est vrai que c'est un thème qui est récurrent, on va dire, à notre domaine, que ce soit justement que ce soit en fantasy, que ce soit en science-fiction, que c'est quelque chose qui revient régulièrement. Je pense qu'on aime bien. Je crois que l'être humain, d'une part, aime beaucoup jouer avec ses peurs, et donc la peur de la destruction qui guette nos sociétés, voire notre monde, c'est quelque chose avec lequel on joue beaucoup. Donc moi j'ai écrit un livre qui s'appelle « Un pape pour l'Apocalypse » dernièrement, qui me vaut d'ailleurs d'être ici aujourd'hui, où là par contre bon, c'est assez finalement amusant, puisque je parle dans ce livre du personnage de Gerbert d'Auriac, plus connu sous le nom de Sylvestre II, qui a été donc le pape de l'an 1000, hein, qui a été pape de 999 à peu près à 1003, enfin pas à peu près d'ailleurs, de 999 à 1003, et donc à une période justement millénariste, hein, où on a eu, alors je crois, peut-être tu pourras me reprendre ou me dire, mais je crois qu'en fait cette peur du millénaire au Moyen-Âge a été quand même un petit peu exagérée.
Absolument, hein. C'est bon, presque un mythe.
C'est ça, c'est pratiquement un mythe, voilà, ouais, tout à fait. Ouais. Hein, je crois que les gens, la plupart des gens, je pense que dans nos campagnes, je vois des régions comme la mienne par exemple dans le Cantal, je pense pas que ça devait beaucoup les tracasser. Hein, je sais même pas s'ils avaient conscience d'être en l'an 1000 vraiment. Hein, je pense que maintenant on a fait tout un fantasme autour de ça. Absolument. Mais bon, il reste peut-être que dans les élites, peut-être comme chez nous, il y avait une conscience, peut-être un cycle, enfin, je sais pas. Et donc moi, j'ai utilisé donc ce personnage, voilà, pour lier tout ça au mythe de l'Apocalypse. J'ai pris différentes même des fois, et sans savoir, certains modèles, où on parlait tout à l'heure de tout ce qui est du serpent, du dragon. Moi, j'ai repris la légende des hommes d'or aussi, voilà, qui était dans la Grèce antique. Hein. Donc, j'ai mêlé tout ça, un petit peu d'Atlantide et tout, pour faire ma sauce d'écrivain, on va dire, et en tirer une histoire. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de tentant, je veux dire, cette idée de la destruction du monde, et c'est vrai que c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on s'attache beaucoup plus, finalement, quand on parle d'apocalypse, et en particulier dans l'imaginaire, on s'arrête, finalement, à la notion de destruction, et non pas, après ça, aux 1000 ans qui vont suivre, voilà, les 1000 ans de paix qui vont suivre. Quoique, finalement, toute création nécessite avant une destruction préalable, quelque part, hein, pour construire quelque chose de nouveau. Si c'est vrai que souvent dans la science-fiction ou dans la fantasy, il y a aussi quand même cette idée de renouvellement.
Bien sûr.
Hein, souvent, c'est-à-dire qu'il va y avoir un grand combat, tout va être détruit, mais après de ceci va germer
voilà
une nouvelle réalité ou quelque chose, on espère, de meilleur. Hein, voilà.
Donc le thème de la régénération est important parce qu'elle est liée directement, et alors que les gens évidemment imaginent le contraire. Le monde ne peut être régénéré que par ce passage. Alors, c'est un passage quelquefois très, très pénible, hein, qui implique quelquefois une guerre, des affrontements, une remise en question aussi, hein, des gens. Donc, voilà, je crois qu'en effet, la notion d'un monde meilleur qui suit l'Apocalypse, ça, c'est très, très positif, là, comme vision.
Oui, et puis ça revient de toute manière un petit peu, il n'y a pas que dans la religion chrétienne, puisqu'on voit le Ragnarok chez les...
C'est violent, là, le Ragnarok.
C'est violent.
Scandinave.
C'est quand même c'est une des seules religions dans le monde qui a des dieux mortels. Donc, les dieux meurent aussi, sont détruits, absolument, eux aussi, pour permettre une nouvelle création du monde, justement. Enfin, on détruit carrément Asgard, enfin, etc. Enfin, c'est quand même très, 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 très sombre. Et ça a été abondamment utilisé, bien entendu.
Les super-héros, aujourd'hui.
Alors là, en plus, maintenant, ils se réapproprient. Voilà, on a les super-héros qui se réapproprient les mythes anciens, alors, d'une façon assez amusante, finalement. Enfin, c'est assez étrange de voir cette boucle. Que les Américains se réapproprient, moi, ça me laisse pantois, quand même, que les Américains se réapproprient les dieux scandinaves. Hein, finalement, de leurs anciens ennemis qui ont été un peu leur grand ennemi, etc. Donc les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale qu'ils ont diabolisé à outrance même, et maintenant ils se réapproprient leur religion pour en faire une nouvelle mythologie. C'est assez amusant. Donc, alors moi mon livre, je sais pas si on parle, enfin présenter un petit peu l'histoire rapidement, enfin un petit peu le postulat. Hein. Donc le livre pour lequel je suis ici, donc Un pape pour l'Apocalypse, tourne autour donc du personnage, je disais tout à l'heure, de Gerbert Doria, qui est un personnage assez étonnant, puisque c'était, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce personnage, vous avez entendu parler de sa vie un petit peu, parce qu'il est étonnamment assez peu connu en France, alors que c'est assez amusant. J'ai vu entre autres des livres aux États-Unis, des histoires de vampires, où Gerbert Doria qui est présenté comme un vampire. Alors ça m'a amusé de trouver ce personnage-là. C'était, je disais, le pape de l'an 1000, et surtout ça a été un mathématicien, un savant, un lettré, qui a introduit les mathématiques arabes en Occident, hein, qui était un technicien, qui créait des astrolabes, il a créé, dit-on, un orgue hydraulique. Enfin, des choses assez extraordinaires pour l'époque. C'était un homme politique aussi, qui a contribué à mettre Capet sur le trône, donc il a un côté savant, hein, et qui, pour l'époque, on va dire, pour l'Église de l'époque, est un peu, on est en l'an 1000, hein, cet homme-là est un peu inquiétant, hein, sent un peu le soufre, et puis évidemment, dans les savants à l'époque, on a vite fait d'être considéré comme alchimiste, donc on le considérait comme un alchimiste, il a une réputation de sorcier. D'abord, donc, parce qu'il était scientifique, et en plus, parce que certains, il avait des adversaires politiques, bien entendu, puisqu'il était homme politique aussi, hein. Et donc, on lui a cousu sur le dos un certain nombre de légendes. Donc, on disait qu'il parlait avec les oiseaux, on disait qu'il était parti dans les pays mauresques pour faire un pacte avec le diable, pour avoir tous ses savoirs, hein, qu'il avait à sa disposition. Et on prétendait, entre autres choses, et une des légendes qu'il entourait disait qu'il aurait eu en sa possession une tête mécanique qui aurait répondu par oui ou non aux questions qu'on lui posait. Et alors tout de suite, évidemment, les imaginations se sont enflammées autour de cette tête mécanique. Certains ont dit oui, alors comment ça, une tête mécanique qui répond par oui ou non? Oui, non, c'est le système binaire 1, 2 des ordinateurs. Donc serait-ce un calculateur médiéval Et donc voilà, il y a plein de légendes qui tournaient autour de ça, et il se trouve que j'habite moi à Aurillac, dans le Cantal, la ville d'où Gerbert est censé être originaire, enfin du moins à côté, un petit village à côté qui s'appelle Beillac. Et on a retrouvé il y a pas très longtemps, là, il y a quatre ans, ça doit être maintenant, les ruines de l'abbaye dans laquelle il a étudié, l'abbaye qui était de Saint-Géraud, qui avait fondé Saint-Géraud, un des cousins, neveux de Charlemagne, et qui était la grande sœur de Cluny, qui était à l'époque une abbaye très très importante, hein, un lieu de la foi très très important en France. Il y avait les reliques de Saint-Géraud qui étaient très visitées, les gens venaient un petit peu de toute l'Europe. Et donc ce jeune homme, enfin ce garçon, hein, donc Gerbert, hein, aurait été remarqué, enfin ça c'est la légende, hein, les choses sont plus ou moins avérées, aurait été remarqué par l'abbé qui, un jour, rentrant à l'abbaye le soir, aurait remarqué dans un champ ce petit pâtre, un petit pâtre qui aurait regardé les étoiles à travers un bâton évidé. Et donc, remarquant cet enfant, il aurait discuté avec lui et aurait été surpris par son intelligence. Et donc, après, aurait demandé à ses parents de le donner à l'abbaye, enfin, de le faire entrer à l'abbaye comme oblat pour apprendre donc, à écrire, etc. Et donc, cet enfant se serait révélé surdoué, une sorte de génie. Et au bout de très peu de temps, enfin, je crois qu'à 14, 15 ans, enfin, les gens de l'abbaye ont dit, mais voilà, qu'ils n'avaient plus rien à lui apprendre, qu'il était décidément, il aurait fallu qu'il aille ailleurs. Et donc, il y avait je me rappelle plus comment il s'appelle, Borel, je crois, enfin, un noble qui passait par là, qui était de Catalogne. Et donc, sachant que les abbayes qui étaient à la frontière espagnole, à ce moment-là, étaient un petit peu à la pointe des sciences, du savoir, on dit, mais est-ce que vous voudriez pas le prendre pour aller apprendre chez vous, dans ces abbayes? Donc, il serait allé à l'abbaye de Ripoll, entre autres, apprendre à la frontière espagnole, et là, il aurait été en contact donc, avec les manuscrits qu'on traduisait à l'époque, donc, c'est-à-dire les Arabes traduisaient les textes anciens qu'ils avaient trouvés, des philosophes, des savants grecs ou latins, qu'ils retrouvaient en Afrique, enfin, entre autres, et donc les moines, eux, traduisaient ces textes anciens à partir de l'arabe, souvent, donc ça passait par là, et donc lui aurait appris, entre autres choses, eh bien, tout ce qui était la philosophie, etc., les textes antiques, beaucoup de savants antiques, et surtout aussi tout ce qui était les mathématiques arabes. Et il aurait conçu, entre autres, enfin, il a conçu, entre autres, un abac, donc une espèce de système, une table de calcul, qui permettait, pour la première fois à l'époque, les multiplications et les divisions, ce qui était parfaitement impossible avec les chiffres romains. Et c'est à lui, entre autres, qu'on doit quelque chose qui maintenant nous paraît nous évident, mais ne l'était pas du tout, justement, c'était la numérotation de position. C'est-à-dire le fait de mettre les unités, les dizaines, les centaines, etc., alors qu'avec les chiffres romains, ce n'est pas le cas. Voilà, c'est à lui qu'on doit ça. Alors, il n'a pas introduit le zéro, puisque à l'époque, l'Église interdisait de représenter l'infini ou le néant. Donc, en fait, le zéro n'est pas représenté, par contre, dans les chiffres. Il y a un blanc à l'endroit où il doit y avoir le zéro parce qu'on n'avait pas le droit, mais c'est à peu près la seule limitation. Et donc voilà, et donc moi mon livre part de ce personnage, puisque de nos jours, on va dire dans ma ville, à Aurillac, où on a les ruines de l'abbaye, j'ai imaginé qu'on retrouvait cette fameuse tête mécanique qui, bien sûr, va être volée, et donc ce qui va être le prélude à toute une aventure, il va y avoir des meurtres qui vont s'en suivre, on va traverser un petit peu toute l'Europe, sur les traces de Gerbert d'Aurillac, dont on va découvrir un nouveau visage. Alors là, c'est là que l'auteur prend le relais, où j'ai extrapolé à partir du personnage lui-même, parce qu'en tirant le fil sur Internet, c'est ce qu'il y a de merveilleux maintenant avec les outils dont nous disposons, on a accès à une somme de connaissances, alors parfois un petit peu bizarre, mais enfin très intéressante. On peut suivre un lien, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et quand j'ai suivi le lien sur Gerbert, quand j'ai commencé à voir cette légende, par exemple, de cette tête mécanique, j'ai suivi le lien, ça m'a amené à une autre légende qui disait que Gerbert serait parti en Inde pour apprendre les sciences, etc. Alors, en Inde, bon, alors déjà, qu'est-ce qu'on désignait sous le qualificatif, enfin, qu'on appelait les Indes à l'époque, ça c'est... Et puis donc, voilà, qu'il aurait appris auprès de ce qu'on appelle les neuf supérieurs inconnus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis encore le lien. Et alors, je tombe encore sur une histoire assez extraordinaire sur, justement, on parlait d'Apocalypse, alors un des premiers dirigeants de l'Inde qui, je crois que c'était Chandragupta, je crois, qui voulant attaquer une cité proche, pour agrandir son territoire, l'aurait attaqué en usant de moyens de science, enfin, je sais pas, c'est pas décrit, hein, en fait, dans la légende, mais effroyable, semble-t-il, et aurait causé des destructions et des morts innombrables. Donc, il a réussi, mais voyant le nombre de morts causés par ces techniques qu'il utilisait, aurait dit, voilà, non, je ne veux plus, moi, que mon peuple ait à souffrir de ces sciences, etc. Et donc, je vais confier ces sciences dangereuses à 9 personnes différentes qui vont chacune les garder secrètes et les transmettre à leurs successeurs. Et donc ces 9 sciences, alors bon, je dirais pas toutes, mais il y en a une, c'était par exemple, c'est assez étrange, il y en a une, c'est la cosmogonie, une autre, ça va être la science de la gravité, l'autre, ça va être par rapport à ce qui est la psychologie, etc., en quelque sorte la guerre psychologique, si on veut. Et donc toutes ces sciences vont être séparées, compartimentées, et parce qu'ils ne voulaient pas qu'elles disparaissent, mais qu'elles, il y en avait une, ça concernait par exemple la lumière, mais par contre qu'elles puissent un jour être utilisées si jamais l'humanité devenait assez sage et qu'on pouvait lui révéler. Et donc par contre d'ici là, elles devaient demeurer cachées et surtout séparées les unes des autres. On ne devait pas les regrouper pour pouvoir en user à mauvais escient. Et donc c'est pour ça, soi-disant, que l'Inde serait devenue un pays de spiritualité plutôt que de technologie, etc. Et donc dans mon histoire, je suis parti de cette légende-là, hein, et donc le héros va devoir retrouver chacun de ses citoyens inconnus.
Donc si je t'ai bien compris, tu relis donc ton roman à l'Apocalypse à travers le concept de révélation, plutôt.
Tout à fait.
C'est ça.
Oui, oui. Oui, alors puis dans l'histoire, on se dit à un moment donné, on dit, mais est-ce qu'il y a... tout un côté où on dit, voilà, est-ce que cette tête, ça sert pas à autre chose? Est-ce que c'est une, y a pas une espèce de compte à rebours pour l'Apocalypse? Je peux pas en dévoiler trop, mais effectivement, il est question d'Apocalypse.
L'écriptage aussi, voilà. Réservé à une élite.
Tout voilà. À fait. D'ailleurs, je me suis beaucoup amusé avec le, alors c'est là que j'en ai appris un petit peu. J'en savais un petit peu, mais j'ai pu, justement, je me suis intéressé à travers le roman à la cryptographie, puisque, voilà, ils découvrent un carnet qui est crypté, alors ce qui m'a fait m'intéresser au code, etc., entre autres, par exemple le code César, hein, qui amuse très facilement les enfants ou les gens, on s'amuse à, en fait, pour écrire un message codé, on écrit un message en décalant en fait, chaque lettre de 2 ou 3, par exemple à la place du A, on décide, on va écrire 3 lettres après, ou on met un D, bon, enfin, ça dépend du nombre. Hein, et ça, on appelait ça le code César, parce que vraisemblablement, enfin d'après la légende, César aurait utilisé ce code pour envoyer un message, entre autres des messages à Pompée, quand ils étaient en guerre en Gaule. À un moment donné, Pompée se serait retrouvé coincé derrière des lignes, enfin, par les Gaulois, et César, voulant faire envoyer un message à Pompée, évidemment il ne fallait surtout pas qu'il soit intercepté par les Gaulois, donc aurait écrit d'abord le message en partie en grec, en partie en latin, et en décalant justement les lettres. Comme ça, et ce message aurait été envoyé par-dessus les troupes ennemies pour indiquer qu'il allait faire une contre-attaque et quand elle allait avoir lieu. Voilà. On appelait ça le code César. Il a servi très longtemps, ce code-là, vraisemblablement. Je me demande si c'est pas jusqu'à Marie Tudor, parce que je crois qu'elle l'a utilisé pour écrire une correspondance, et je crois que c'est ce qui a causé un petit peu son malheur à elle, parce que quelqu'un a décrypté, on va dire, ce code César. Donc après ça, on a inventé d'autres codes beaucoup plus complexes pour crypter les messages.
Méfions-nous des têtes binaires et mécaniques, donc c'était une première leçon.
C'est ça.
Jean-Luc, vous avez parlé du fait que les mythes européens, anciens notamment, sont maintenant réexploités, notamment en Amérique du Nord, et puis peut-être l'occasion de voir si ces fameux survivalistes dont on parlait se sont inspirés de ces mythes nord-européens, anciens. Et...
Oui. Bon, j'aurais pas le temps de démontrer...
Si, on a le temps.
Non, j'aurais pas le temps de démontrer qu'en fin de compte, l'Amérique, depuis sa création, est liée à l'Apocalypse. Christophe Colomb, comme vous le savez, n'a jamais découvert l'Amérique. Il a tout simplement découvert le Novus Mundus, c'est-à-dire un monde nouveau. Il a découvert la nouveauté, il a découvert un nouveau temps, c'est un espace-temps, un nouveau temps et une nouvelle terre. Quel est le lien avec l'Apocalypse? On le sait pas, mais Christophe Colomb a écrit le livre des prophéties. Et comme je le disais au début, l'Apocalypse n'est pas, ou plutôt les résonances apocalyptiques, c'est pas tout le temps, tout au long de l'histoire. Ces résonances apocalyptiques, elles surgissent, elles explosent à certains moments. Et s'il y a un moment qui est véritablement apocalyptique dans l'histoire, c'est le 15e siècle. Et pratiquement tout le monde, tous les prédicateurs, les prophètes, s'accordent sur des périodes qui vont déboucher sur des découvertes. Découvertes de nouvelles terres, découvertes de nouvelles croyances, etc. Et donc, en fin de compte, Christophe Colomb, en inventant l'Amérique, d'une certaine façon, invente notre monde actuel. C'est-à-dire, il y a un déplacement gigantesque de l'Est à l'Ouest. Ce monde nouveau va, ce monde proto-américain va incarner la nouveauté. Il faut renouveler le monde chrétien. Alors très souvent, cette notion de renouvellement, bah, vous la trouvez dans l'histoire à certaines périodes, voilà, où tout le monde d'un seul coup se met à exprimer le même message. Et un des mythes essentiels liés justement pour les Américains à l'Apocalypse, c'est le paradis terrestre. Et les réformateurs, les protestants vont aller dans ce sens en disant « Mais oui, le paradis terrestre, il est accessible. » Et donc, une fois encore, la nouvelle terre, le paradis des futurs chrétiens sera cet espace consacré par Dieu qui va donc accoucher. Et le terme « accoucher », pour moi, d'ailleurs, c'est peut-être la meilleure traduction de Apocalyptos, hein. C'est l'accouchement d'une nouvelle forme d'humanité qui renouvelle une humanité qui est fatiguée, corrompue. Ben, c'est l'ancien monde. Hein. Alors, vous connaissez les résistances des Américains face à l'Europe. Comme vous le savez, l'Amérique se constitue contre l'Europe, c'est-à-dire contre la décadence, la corruption, la tyrannie, etc. Donc il faut renouveler tout ça et hop, d'un seul coup, au lieu d'aller vers l'Est, on va vers l'Ouest, c'est-à-dire on va vers l'avenir. Donc les Américains, Christophe Colomb, je veux dire, il ouvre la porte à l'Amérique du futur. Et qu'est-ce qui se passe ? Ben, les Américains ont totalement monopolisé cette vision futuriste avec des thèmes comme la jeunesse, la mode, etc. Bon, vous connaissez tout ça par cœur. Et en fin de compte... Bien sûr. Oui. Absolument. On pourrait faire un travail, évidemment, sur l'Amérique du Sud, hein, mais je ne suis pas du tout... je suis plutôt spécialiste de l'Amérique du Nord. Mais, d'une certaine façon, ce qu'écrit Colomb et les autres, hein, ça, évidemment, c'est pratiquement tout le continent américain. Hein, c'est évident. Donc, pour Colomb, la fin du monde, parce qu'on parle tout de même de fin du monde, mais la fin, qu'est-ce que c'est que la fin ? Ça peut être la frontière aussi, hein, la fin du monde, Finistère aussi. Hein, la fin du monde aurait lieu en 1500. Et donc, il voit dans ses voyages la dernière grande mission chrétienne, juste avant les temps ultimes. Alors, il y a toujours, évidemment, ce jargon apocalyptique qui vient, évidemment, de Saint Jean, et qui va résonner dans la réalité même. Donc, c'est important de voir le lien entre la fiction et la croyance. Hein. Et dans le cas des Américains, c'est formidable, parce que, comme tu le sais, bon, ils peuvent pas fonctionner sans les deux. Non. Il n'y a pas de création sans croyance, il n'y a pas de croyance sans création.
Ouais, tout à fait.
Et là, faudrait parler aussi de mille choses, notamment de Joachim de Fleur, les prophéties de Joachim de Fleur, qui va annoncer trois grandes périodes, et la troisième grande période qu'on est censé vivre aujourd'hui, c'est le retour de l'esprit, on ne le voit pas beaucoup, mais enfin, ceci est une autre histoire. Donc, il faut inaugurer l'étape finale de l'histoire. Mais une fois encore, l'Apocalypse, c'est pas la fin du monde, au sens où certaines sectes vont l'utiliser, et malheureusement, quelquefois l'actualiser par des massacres épouvantables comme Guyana, etc. Ah oui, effroyable. Hein. Alors, je peux passer quelques...
Pas d'image de massacre. Hein.
Bon, Joachim Fleur, bon, il y a Pierre Dailly, bon, voilà. Les utopistes, très souvent, prophétisent aussi, hein, comme vous le savez, une utopie est toujours une projection vers l'avenir. Il n'y a pas d'Amérique aussi sans grands utopistes. Ce sont très souvent d'ailleurs des hommes d'église, hein, comme Campanella. La Cité du Soleil, c'est déjà, d'une certaine façon, la projection d'une Amérique qui sera rationnelle, qui sera scientifique. Et bien sûr, les réformateurs vont suivre cette voie. Puis d'autres, bon, je ne veux pas prendre tous. Et puis, bien sûr, au XVIIIe siècle, lorsqu'on cherche des symboles pour l'Amérique, eh ben, il y a, d'ailleurs, c'est souvent des maçons, des francs-maçons qui vont travailler sur ce symbolisme qui suscite beaucoup de polémiques sur le réseau. Mais l'aigle du grand sceau américain, il est peut-être issu de l'Apocalypse. Alors, il y a un nombre invraisemblable de symboles, hein, comme je le disais dans l'Apocalypse. Et là, c'est très intéressant. Vous voyez qu'il porte dans ses serres un double symbole. Vous avez à droite le symbole de la guerre et à gauche le symbole de la paix. Donc, d'une certaine façon, on peut le relier à l'Apocalypse parce que les millénaristes envisagent deux voies pour ouvrir au royaume terrestre, l'anéantissement du mal par la violence et bien sûr une sorte de progression paisible. C'est-à-dire l'Amérique, c'est les deux voies. Et je pense que ça peut venir d'une lecture peut-être un petit peu séculière de l'Apocalypse. Et puis, il y a la devise. Qu'on trouve sur la pyramide et qui reprend aussi l'idée du renouvellement. Hein. Annuit coeptis, novus ordo seclorum. Alors, cette devise du sceau pourrait revêtir un aspect millénariste, c'est-à-dire. Ça vient de Virgile d'ailleurs. Annuit coeptis, ça veut dire il a favorisé notre entreprise. Il, bien sûr, c'est Dieu représenté par l'œil qui voit tout en haut de la pyramide et en bas, novus ordo seclorum. Alors celle-là, elle crée beaucoup de discussions acharnées. Un nouvel ordre des siècles, littéralement, où on trouve toujours l'idée. Que l'Amérique renouvellera d'une certaine façon le monde occidental. Voilà. Donc, l'Apocalypse a des résonances, évidemment, tout à fait diverses dans ces sectes diverses. Beaucoup de sectes américaines qui vont se développer au 19e siècle, les Shakers notamment, sont des sectes apocalyptiques. Les Shakers qui inventent d'une certaine façon la danse et la danse spirit, c'est très étrange.
Quelqu'un sait danser, le shaker?
Shake it, baby.
Dommage. Grand danseur. Bon.
Voilà quelques exemples de sectes apocalyptiques qui ont duré tout de même un certain nombre d'années. Je ne sais pas si vous les connaissez de nom, ce n'est pas les plus connus. Il y a aussi les entreprises purement socialistes qui pourraient être également rattachées à l'Apocalypse parce qu'on va, en fin de compte, vénérer le progrès comme on vénère Dieu à partir du 19e siècle. Fourier, Owen, Cabet, et puis bien sûr les Mormons. Alors les Mormons, c'est véritablement une secte apocalyptique qui a très bien réussi. C'est celle qui a le mieux réussi au point de devenir une véritable religion aujourd'hui. Le livre de Mormon, c'est assez illisible, mais c'est tout de même intéressant de le relier aussi à l'Apocalypse. Voilà, avec y a ce côté. Alors, comme les Mormons attendent l'Apocalypse, ils sont en train d'enregistrer toutes les données des gens qui sont morts dans l'histoire, et ils entreposent toutes ces données dans des cavernes, ce qui est assez intéressant, dans l'Utah, évidemment, là où il y a Salt Lake City. Donc, ils appellent ça, je crois, le nouveau baptême des morts. Donc, là encore, c'est une vieille idée, sans doute liée à l'Apocalypse. Alors, il y a les millénaristes, les adventistes. Voilà. Et puis, il y a aussi une apocalypse absolument épouvantable, dont j'ai parlé l'autre jour, c'est l'apocalypse indienne. Parce que les Indiens aussi, ils ont des croyances, et dans les années 1880-1890, il va y avoir une vague apocalyptique qui va déferler dans les tribus, ou plutôt ce qu'il en reste, hein, parce que là, on va vers la fin des Amérindiens. Et c'est assez intéressant de voir qu'ils ont leur prophète qui s'appelle Wovoka, et qui va les encourager à renouveler le monde indien par des par la danse, et aussi par la danse du soleil, qui est épouvantable, enfin, sur laquelle je ne dirai rien. Et là, Wovoka, donc, grand prophète indien, et ça va se terminer d'une manière tragique en 1890 par Wounded Knee. Wounded Knee, c'est la fin d'une certaine Amérique, et là encore, c'est un acte qu'on pourrait relier à l'apocalypse. C'est de l'espoir qui se fait désespoir. Bon, malheureusement, vous allez me dire, alors l'apocalypse, ça se termine bien. Oui et non, ça se termine pas bien du tout pour les Indiens. En 1900, il y a plus que, je crois, 100 000 Indiens sur le territoire américain, alors qu'il y en avait des millions quelques décennies avant. Mais les Indiens ont survécu. Les Indiens retrouvent leur rite, retrouvent leurs croyances. Et c'est assez intéressant de voir qu'il y a tout de même un renouveau d'une certaine forme de sagesse indienne aujourd'hui. Donc, derrière tout ça, il y a un message. C'est-à-dire que les choses ne s'arrêtent jamais totalement. L'apocalypse, contrairement à ce que les gens croient, c'est pas l'arrêt brutal d'un seul coup de croyance, d'une humanité, d'un monde créé. Non, c'est aussi une sorte de perspective de renouvellement du monde. Donc ça, pour moi, c'est très important. Et puis, on va peut-être passer, on va arriver au survivalisme, si tu es d'accord.
Oui, alors, il y avait quelque chose qui était intéressant, quand tu parlais des Indiens, etc., là, et de l'Apocalypse, c'était le cas des Aztèques, par exemple, quand tu parlais de Christophe Colomb, qui est quand même extraordinaire, parce que les Aztèques avaient une religion qui était cyclique, en quelque sorte, où on revenait, il y avait un dieu qui allait être le dieu dominant pendant une certaine période, ce qui était normalement, c'était Huitzilopochtli, je crois, celui qui était lié dynastie régnante à ce moment-là, à Montezuma. Et en fait, ils arrivaient à la fin. Ce qui est extraordinaire, c'est que de se dire que les Blancs, finalement, les conquistadors, sont arrivés en Amérique du Sud, au moment même où ce cycle arrivait à la fin et où devait revenir un personnage de Quetzalcoatl, un autre dieu, qui était donc le serpent à plumes et qui était lié au tonnerre. Et donc, les conquistadors sont arrivés sur ces entrefaits au moment où justement le basculement devait se faire. Et en plus, et en ayant des armes à feu qui produisaient un bruit comme le tonnerre, les Aztèques donc ont vu dans l'arrivée des conquistadors justement le retour de Quetzalcoatl.
Exactement.
Voilà, ce qui explique qu'en fait Cortés a pu au départ en tout cas manœuvrer de manière extrêmement facile parce que ceux d'en face étaient convaincus qu'il était presque dans son bon droit.
Absolument.
Et même Montezuma a hésité, enfin a douté, se pensait que c'était vraiment l'arrivée de Quetzalcoatl, ce qui explique la façon très facile qu'ils ont eu finalement en étant très peu les conquistadors, conquérir le Mexique. Donc dans leur cas à eux, c'est très étonnant de voir qu'il y a une espèce d'adéquation entre leurs croyances et ce qui est finalement advenu.
Absolument. Les Blancs n'ont pas le monopole de l'Apocalypse.
Voilà, exactement. Oui, c'est marrant de le voir dans une culture qui, en plus, a évolué de manière totalement parallèle. Parce qu'autant nous, on peut être lié, on peut estimer qu'on est lié avec les Nordiques, avec les Latins, puisque de toute façon, on sait au départ que tout ça, ça vient des Indo-Européens. Enfin, les croyances sont les mêmes, que ce soit nous, que ce soit les Germains, etc. On est issus à la base d'une même culture, quelque part, puisqu'on a une religion tripartite à chaque fois, enfin, qu'on retrouvait chez les Grecs, chez les Latins, chez les Germains. Alors que là, c'est des civilisations qui sont totalement originales, qui sont nées en Amérique, et on retrouve cette idée, par contre, d'Apocalypse. Mais par contre, c'est vrai que là, on a cette idée par une même chose, d'un cycle, ça détruit, mais pour construire autre chose, de toute manière. Mais par contre, là, les Aztèques n'ont pas eu de chance.
Eh ouais. leur prophète leur avait dit que les barbus qui viendraient de l'Est, qui débarqueraient, de toute façon, les battraient.
Oui,
ils étaient battus d'avance déjà dans leur tête.
Et puis c'était normal, c'était le retour de Quetzalcoatl, donc en fait, un nouveau cycle. Donc pour eux, ils ont résisté, mais résisté mollement, finalement, en étant persuadés que les conquistadors étaient dans leur bon droit de venir conquérir le pays.
Alors, pour conclure, en tout cas sur ce point qui est plutôt inquiétant, lié à la violence aussi. Bon, faudra faire tout un historique de la violence aux États-Unis, des croyances au dieu, parce que le dieu qui va triompher dans l'Amérique, surtout au XVIIe, XVIIIe, moins au XVIIIe, c'est le dieu vengeur, c'est le dieu de justice, c'est un dieu terrible qui punit, et c'est le dieu qui va gérer, si j'ose dire, diriger l'Amérique très très longtemps. Et donc, il y a cette tradition d'une violence liée, en fin de compte, à Dieu. Et dans ces aspects les plus militaires, les plus militaristes, vous avez tout de même des mouvements hyper conservateurs qu'on mettrait plutôt à l'extrême droite aujourd'hui, des milices armées, mais qui sont toutes fanatisées. C'est-à-dire ces miliciens armés qu'on peut facilement manipuler par Internet et en quelques jours, on peut réunir 1 million de personnes dans le Montana, dans certains coins. Et donc là, c'est encore une perversion, disons, de la lecture apocalyptique. Et puis, il y a aussi le jugement dernier. Alors, vous trouvez partout des panneaux publicitaires pour le jugement dernier, ça fait plaisir. Vous allez disparaître, etc. Repentez-vous. Mais ça, c'est vraiment le côté, disons, le moins intéressant, faut bien le dire, de cette croyance. Et puis, vous avez, bon, des bouquins, je veux pas vous les donner, mais qui tirent à des millions et des millions d'exemplaires et qui ne cessent de rappeler que, en fin de compte, l'Apocalypse va frapper l'Amérique. Bah, vous le savez que l'Apocalypse a déjà frappé l'Amérique à travers le 11 septembre. Le 11 septembre a été considéré, évidemment, et ça c'est une lecture totalement pervertie, comme la grande punition de Dieu. Hein, voilà. Or, l'Apocalypse n'est pas une punition. Il faut le dire. Hein. Voilà. Alors, le 11 septembre, les gens ont vu, évidemment, la concrétisation de la fin d'un monde, et non pas de la fin du monde. Et puis, voilà, et puis on tombe sur les survivalistes qui, eux, sont convaincus que l'Amérique va disparaître et qui font donc creuser des abris anti-atomiques. Et là, c'est une mode assez invraisemblable, parce que ça ne concerne pas 100 personnes, ça concerne des milliers et des milliers de gens qui sont tellement convaincus par le message apocalyptique pervers que, ben voilà, il faut aménager un monde souterrain. Alors évidemment, les résonances dans la fiction, tu dois connaître ça mieux que moi.
Alors, il y a quelque chose aussi, moi, qui m'étonne, ça avait été le thème aussi d'un autre de mes livres, cette espèce de syndrome de l'Apocalypse qu'on retrouve, c'est un discours qui est un peu permanent, et entre autres, par exemple, je trouve une dérive assez inquiétante, un écho dans certains discours actuellement, on va dire, écologiste, où on a justement ce mythe de l'apocalypse qui ressort, où on nous tend à chaque fois, oui, alors par exemple, le réchauffement climatique, on va tous disparaître, on a justement d'un nouvel avatar à chaque fois, alors passé un temps, c'était justement la destruction nucléaire, maintenant, c'est le réchauffement climatique qui va tous nous détruire, et donc on a à chaque fois, on nous brandit, quelque part, le spectre de l'apocalypse, partout, et pour faire peut-être réagir les gens, effectivement, mais par exemple, chez Alcor, quand il faisait il avait fait son grand show, et je crois que c'est, alors je ne me rappelle plus qui c'est qui a écrit un livre comme ça, qui s'appelle Le fanatisme de l'apocalypse, qui est très intéressant, c'est Bruckner, je crois, Pascal Bruckner, et qui justement démonte un petit peu tout ce système, il dit, mais en plus de ça, c'est assez amusant de voir finalement la disproportion entre la peur qu'on va brandir devant les gens et les moyens qu'on va leur donner ou qu'on va leur demander. Il disait voilà, bientôt c'est l'apocalypse parce qu'on consomme trop, etc. Donc triez vos déchets, vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Alors, il disait voilà, c'est la disproportion de la peur et puis après ça, évidemment avec des petits gestes appropriatoires, on va peut-être réussir à éviter le pire.
Les philosophes allemands de la catastrophe prêchent ça, il faut penser à la catastrophe certaine pour pouvoir l'éviter. Ou bien Jean-Pierre Dupuy en France, la petite métaphysique du tsunami, c'est la pensée certaine de ça qui est la seule possibilité pour l'éviter. Donc c'est aussi un genre philosophique et littéraire qui est
tout présent. À fait, mais je pense, bon, de toute façon, l'être humain aime jouer avec ses peurs, ça c'est certain. Je crois qu'on disait, voilà, s'amuser avec sa mort pendant qu'il la fabrique, c'est tout l'homme. Je crois que c'était Céline qui disait ça. Mais c'est exactement ça. Et c'est vrai qu'on a, par contre, oui, les survivalistes, etc., on a toute cette littérature, et puis le cinéma, qui est, bon, c'est vrai que je vois des films comme Terminator, des choses comme ça, où on a tout le temps ça qui revient. Armageddon, ben voilà, exactement. Hein, ben c'est vrai qu'en plus, depuis qu'on sait qu'on a la capacité de déclencher, quelque part, l'apocalypse, enfin, dans le mauvais sens du terme, hein, qu'on a la puissance nucléaire, alors justement, je crois que c'est Oppenheimer qui avait, on cite souvent Oppenheimer, parce qu'il avait cité, quand il avait réussi à créer la bombe, il avait cité un texte hindou, je crois, où il disait, voilà, je suis le destructeur de monde, je suis, voilà, donc ce qui est quand même pas très rassurant pour un type qui vient de créer la bombe atomique.
Mais... On a aussi un philosophe français qui glosse là-dessus, qui est Michel Serres, qui dit, je ne sais pas comment aura lieu la troisième guerre mondiale, mais il y a un truc dont je suis sûr, c'est qu'à quatrième guerre mondiale, il aura lieu avec des bâtons et des cailloux.
C'est ça, exactement.
C'est la même idée.
Oui, voilà.
Par contre, on a dépassé un petit peu. Merci à Jean-Luc Marcastel, merci à Loric. Je pense que tout le monde a trouvé ça très, très intéressant et passionnant. On pourrait y passer la journée.
Désolé pour les questions.
Et on continuera avec les faits et la féerie, ça va nous détendre. Enfin, j'espère.